C'est quoi le plan, boss ?
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut !
Salut !
C'est Soundtrack.
Il te plaît pas, mon costume ? Il parvient pas à te remplir d'effroi.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi, je me fais du cinéma.
As-tu la moindre idée du nombre de grands hommes qui ont tué en costume ?
Moi, il me plaît, mon costume.
Moi aussi.
C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance.
Tiens, c'est exactement ce que j'avais dit. Comme ça, je fais moins peur qu'un abruti verrait masquer cette blague.
Il y a de la musique. Et il y a du personnage dans le micro.
Oui.
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 C'est fou.
Faut appuyer sur les bons boutons pour que ça fonctionne.
C'est ça. On s'entend.
Ouais.
T'es là.
Bonsoir mon cher Jérôme.
Alors bonsoir mon cher Yves.
Et bonsoir à tous nos chers auditeurs avec un Z.
Oui.
Et comme je le précise souvent, quand nous ne sommes que deux au micro lors de Soundtrack, le deuxième vendredi du mois.
Oui.
Rediffusion le dimanche à 15h et le mercredi à 3h du matin pour les insomniaques.
C'est tout.
Si nous ne sommes que deux, je ne fais que la technique audio. Donc désolé pour nos fidèles zioteurs facebookiens.
Oui.
Retrouvez-nous sur le 90.2 FM.
Oui. D'autant plus que là, on était très très beau. Hein.
Ouais, www.victorine.net, DAB+, Canal 7B.
Voilà. C'est ça, parce que là, le déménagement s'est très très bien passé. Pardon, il faudrait dire à Gérard qu'il récupère les clés du camion.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Bah, c'est con, vous n'avez pas l'image.
Comme on dit, c'est de la private joke. Nous sommes nos détenus.
Dans la tenue de l'instant.
Voilà.
Mais Yves met un pantalon quand même, Yves.
On pourrait dire que nous sommes les acteurs de cette émission, mais en réalité, non, nous ne sommes pas les acteurs de cette émission.
Non.
Mais nous allons parler d'un acteur.
Ah oui, je ne la voyais pas venir.
Ouais.
C'est fou.
D'habitude, on se concentre principalement sur les films pour parler des musiques de films.
Oui, on essaie de se concentrer.
Et par rapport à une thématique. En conséquence, les animaux, James Bond, la guerre, les comédies romantiques, comme on a déjà fait plein
de trucs
comme
ça. C'est bien, t'es en train de faire tout le panel là. Bah là
et
on va parler d'un gars.
Ouais, un gars.
Hein, à ce moment-là, un gars qui a percé.
Ouais.
Mais alors, pas banal, le gars, c'est Christopher Waltz. Et on l'aime bien. Alors, moi, j'aime bien le gars.
Ouais.
Parce que le gars, il a une histoire qui est pas banale.
Ouais.
Hein, pour ceux qui avaient RTL 9, on l'a croisé avant 2009.
Ah.
Pour ceux qui n'avaient pas RTL 9, fallait aller en Allemagne pour le voir, le titre.
Ah, pourquoi ?
Bah parce que Derek, parce que t'as tort, parce que Rex,
non,
Schoenflick.
J'ai jamais tort. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc on les a eus en France aussi, ces magnifiques navets formidables du dimanche soir, du dimanche après-midi ou du début de fin d'après-midi pour dormir. Christopher Waltz, voilà, qui a commencé à exister vraiment sur la scène internationale parce que... Bah parce qu'il a croisé un certain Quentin Tarantino. Voilà. Ça va.
Il y a pire comme rencontre.
Alors, croisé, non.
On va dire qu'il était déjà plus tout jeune. Il avait donc déjà sa carrière derrière lui.
Je dirais qu'il avait déjà une patine. Ouais. Et le mec, on va dire, il ne cause pas quatre langues, mais il se démerde dans quatre.
Il y a ça qui sert.
Et il est vrai que le casting du film dans lequel ça a matché... Ça a nettoyé pas mal de monde sur le volet.
Il a un sacré rôle marquant.
Il a un putain de rôle.
Voilà,
le rôle est dessus.
C'est le rôle le plus marquant.
Il a le film sur les épaules, en fait. Parce qu'en fait, c'est le méchant, mais c'est le héros.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, vous l'avez reconnu, Christopher Waltz, on le connaît tous. On voudrait le haïr, mais il est toujours tellement sympathique, sophistiqué, polyglotte.
Il a une gueule en plus, donc ça fait du bien au niveau du cinéma. C'est souvent le cinéma, faut qu'il y ait des gueules.
Oui.
Mais il a une gueule, il a une présence, il a justement la capacité de parler dans plusieurs langues.
On va dire que c'est un éternel second rôle qui finit encore mieux que d'habitude.
Ouais.
Parce qu'à un moment, il a carrément bouffé le premier. Mm. Notamment dans Inglourious Basterds, puisque c'est le film. Voilà, c'est le film dont on parle, c'est le film de la rencontre avec Tarantino.
Donc, okay, on va dire une petite info pour les auditeurs. Les musiques que vous entendez en fond sonore ne sont pas forcément correspondantes des films dont on parle à ce moment-là.
Oui.
Là,
on est pire, si on veut. Vous...
Voilà. On parle par exemple là de Inglourious Basterds, mais on a en fond sonore David Bowie pour le film Cat People.
On est dedans.
Ouais.
On est dedans.
Mais voilà.
Mais c'est... oui.
Pour certains, on sera peut-être pas tout à fait dans le timing, donc.
Ça devrait pas être.
Passera,
ça devait être bien si on n'en faisait pas des caisses au début.
C'est ça.
Ça va décaler. Donc.
Décaler.
Voilà. Oui,
non, excusez-moi.
Non. Donc, parcours fascinant, surtout quand on sait que sa reconnaissance internationale est arrivée relativement tard. Il faut vraiment le dire, le type. Mais il est arrivé avec une patine, il est arrivé avec son côté gentleman, sophistiqué, pour jouer des seconds rôles qui bouffent tout et. Le gars est devenu la muse de Tarantino, et une fois qu'on devient la muse, c'est un peu comme Hans Zimmer.
Oui.
Il a percé à Hollywood, c'est fini. Derrière, il a déménagé à Hollywood. Bah, oui. Depuis, je crois que ça fait quelques années, il est devenu aussi citoyen américain.
Oui.
C'est pratique, et... ça peut aider. Et il partage donc sa vie entre Londres et l'Allemagne, parce qu'il est resté... Il restait germanique, le garçon, parce que c'est la moitié de sa vie, hein, mine de rien. Donc voilà. Et c'est assez rigolo de voir l'évolution du type qui a su rester simple, qui reste polyglotte, mais qui est conscient aussi. Moi, je l'ai vu en interview où il parlait du français. Dans Inglourious Basterds, il joue du français. Il m'a doublé.
Oui.
Il y a même la scène culte de le fameux adieu, Shoshana. À bientôt, Shoshana, voilà. Le gars cause en anglais, pour pas qu'on comprenne. Ensuite, il cause en français pour que les otages le comprennent.
Ouais.
Et vu qu'il est Standartenfuhrer, donc un équivalent de colonel dans la Gestapo, il cause allemand à ses hommes.
Oui.
Tout ça dans la même scène. Beaucoup diront que c'est la scène qui a posé tout le truc.
Pour ceux qui connaissent le film ou qui sont allés voir des
ceux
extraits
qui
sur,
vu,
les réseaux sociaux,
il y a
une tension. J'ai oublié le nom de l'acteur français qui joue.
Ménochet.
Qui a déjà lui-même une présence, un acteur français qui a une présence, qui a un charisme. Donc deux personnages charismatiques dans une scène qui est hyper poignante.
T'as deux monstres, il y en a un qui bouffe l'autre, mais tout en douceur.
Voilà.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il le colle au mur gentiment et l'autre n'a plus vraiment le choix que de. On le sait.
Ouais.
L'autre le sait, il le sous-entend tellement que, voilà.
Comme on dit, c'est une scène où tout est également dans les non-dits.
Oui.
Il parle beaucoup.
Ménochet
ne peut pas trop en dire, mais il y a de la communication non-verbale également entre les lignes.
Alors, c'est dit en français, pour le théâtre, dira-t-on, pour tout le monde, en allemand pour les mecs en armes, et en anglais pour Ménochet, qui lui, apparemment, speak English.
Ouais.
Et le problème, c'est que les gens qui sont cachés dans la cave, eux...
et c'est vrai cette scène est impressionnante.
Voilà.
Il y a tout ce qu'il faut entre les différentes émotions.
Ah ça pose un film.
Nous, quand on est spectateurs, on se dit « Non, c'est bon, ils vont pouvoir, ils vont se sauver, gna gna gna. » Mais il y a la tension, c'est la guerre. Lui, il est militaire, il fait son boulot.
Alors, militaire, c'est quand même un colonel SS dans la... donc on est bien. Dans les services secrets de la SS, avec la tête de mort et tout. Donc
Ils
sont pas connus pour être des types sympas.
Ouais.
Et son surnom, c'est le chasseur de juifs. Comme il le dit lui-même, est-ce que vous maîtrisez votre surnom ? Bon, comme il dit, moi, mon boulot avant la guerre, c'était de trouver des gens et je le fais très bien.
Ouais.
Voilà, j'ai mis mes services. Donc là, on peut pas dire que ce soit quelqu'un de fun et gentil.
Oui.
Voilà, non plus.
Mais
le type est glacé, machin. Et la scène initiale se finit à au revoir, Shoshana, avec cette hypothèse. comme s'il savait le scénario, c'est fou ça. On va se revoir.
Et c'est vrai
on va se revoir.
Voilà.
C'est
pour poser, on va dire, un acteur qui a donc déjà un passé, mais qui n'est pas connu du public, un passé de téléfilm et qui est connu dans son pays d'origine. Là, au moins, c'est...
Ah bah moi qui parlais souvent des acteurs allemands qu'on connaissait pas, voilà, est-ce qu'il y a des grands films allemands, des grands machins, hormis sur du cinéma, d'arrêt d'essai et compagnie, là, pour le coup, lui, il a fait un bond de géant.
C'est ça.
Et en posant vraiment ce qu'il était, mais en subtilité.
Et voilà, il a un charisme, il a du charme.
Ah oui, tout à fait.
Il a une gueule, il a toutes les prestances qu'il faut pour en plus être multicarte.
Et en fait, on le voit avant 2009, parce que c'est quand même assez intéressant, dans les rôles secondaires, mais marquants. Il est déjà respecté, mais il est toujours très très loin d'Hollywood. D'ailleurs, il n'en entend même pas parler. Hein.
Ouais.
La majeure partie de son travail, selon lui, est routinière et peu valorisante. Il déclare lui-même, il y a peu de films dont je n'ai pas honte.
Ça, voilà, c'est beau.
C'est un acteur gamelle, pour le coup. Et même en 2000, il passe de l'autre côté de la caméra en réalisant son premier téléfilm. Alors, je te laisse le dire, Yves. Ainsi. Ja? Schön. Alors, wenn man sich traut, en français, si tu oses. Ouais. C'est mieux. Donc, voilà. Et puis, la rencontre avec Tarantino. Donc, voilà. Donc, Inglourious Bastard, parce que, bon, on vous l'a fait un peu à l'arrache, mine de rien. Donc, il joue le rôle de Hans Landa, le colonel nazi polyglotte, raffiné, sadique, surnommé le chasseur de juifs. Inglourious Bastard, le film de guerre américano-germanique, uchronique, donc une fable sur le thème du cinéma qui a le pouvoir de modifier le cours de l'histoire. Oui. Ça ne s'est pas passé comme ça.
Mais ça, c'est quand même un plaisir
c'est
Tarantino de revoir...
C'est du Tarantino. Voilà. Et le chef maquilleur de ce film, Greg Nicotero, explique que l'idée de départ est contenue dans les premières lignes du scénario. Il était une fois dans la France occupée.
Voilà.
Donc voilà, on est dans un autre monde. Point. Fin de l'histoire. On parle de... mais d'une autre manière. Voilà. Donc il n'y a pas de... c'est pas la même chose. Et Tarantino explique d'ailleurs l'importance du personnage de Landa dans son film. Je cite, « Je savais que Landa était un des meilleurs personnages que j'ai jamais créé et probablement un des meilleurs que je ne créerai jamais et je n'aurais pas réalisé Inglourious Bastard si je n'avais pas trouvé le bon acteur pour jouer le rôle pivot de Hans Landa. » Quand on connaît que Tarantino, ça se joue souvent là-dessus.
Oui.
Il a besoin d'un...
Et en même temps, on sait que Tarantino, c'est quelqu'un qui est hyper connaisseur en cinéma, série B, série Z et compagnie.
C'est ça.
Donc, si il a trouvé Christopher Waltz, c'est que, voilà, il l'a vu quelque part, aussi bien dans un Derrick, comme tu dis, ou un Tator. Il a trouvé que le mec, il savait jouer, qu'il avait une gueule, qu'il avait tout ce qui correspondait.
Chapeau au mec du casting, hein, parce que là, pour le coup, c'est...
Et dire, celui-là, vous me le faites venir, et j'imagine Christopher Waltz en train de se dire, Tarantino veut que je joue dans son film.
Et en même temps, ça devient sympa. C'est pas que t'as rien à perdre, mais mine de rien, t'es posé dans un autre monde. Tu te dis, au pire, c'est du bonus, finalement, enfin, je sais pas.
Parce qu'à l'époque, il avait la cinquantaine, déjà.
Ouais, donc, je sais pas.
Donc c'est ça, c'est de se dire, t'es acteur, t'as déjà 50 ans, t'as 50 ans, tu t'attends pas forcément à ce qu'un mec vienne te chercher en disant je veux que tu joues dans mon film.
Mais Tarantino, c'est ça.
Voilà, c'est ça qui est bon.
Donc voilà. Donc
la confiance.
Donc voilà, un petit synopsis quand même d'Inglourious Basterds.
Oui, parce que toi t'aimes bien faire ça.
Oui, voilà, ça me colle un peu au cul, hein, mine de rien.
C'est du Tarantino, ça se passe en plusieurs chapitres.
Oui, 5 chapitres. Et ça va s'expliquer après. L'histoire se déroule en France durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça narre la vengeance d'une jeune juive, donc Shoshana Dreyfus, qui est jouée par Mélanie Laurent, dont la famille a été assassinée par les nazis, ainsi que les plans d'un commando de soldats juifs alliés, il faudra en parler aussi, mené par le lieutenant Aldo Reins, joué par un magnifique Brad Pitt, c'est un bonheur, envoyé en Europe occupée pour éliminer le plus de nazis possible. Oui, alors ça, c'est une manière de le dire gentiment.
Oui.
Voilà. Si vous n'avez pas vu le film, si vous l'avez vu, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Qui s'applique à scalper avant de s'attaquer, avec succès, à leurs dirigeants. Ça résume bien, c'est le pitch. Hein. Ouais. Je ne vous fais pas le synopsis parce que ça reste très long. Voilà. Et Tarantino a commencé à écrire le scénario et vous comprenez les 5 chapitres.
Oui.
Plus de 10 ans avant la sortie du film. Mais pourquoi les chapitres? Parce qu'il avait des difficultés à le finaliser, donc 10 ans. Mais il était en train de faire Kill Bill et Boulevard de la Mort. Kill Bill était aussi un chapitre.
Oui.
Et il y avait Pulp Fiction,
oui,
qui a été fait en chapitre. Maturman en parlera aussi en disant bah, on était entre les deux. Ouais, donc de rien, on était le nez dans la recette du truc. Bah, on a fait ça. Et ça marche.
Mm.
Et pour le coup, on va dire que c'est 5 chapitres, mais dans l'ordre que Pulp Fiction, c'est pas dans l'ordre.
Oui.
Voilà. Alors, Jackie Brown, je sais plus, parce qu'il est long. Jackie Brown, faut. Mmh. Wouh,
mais
c'est compliqué.
C'est ça le plaisir aussi.
Voilà, tout à fait.
D'avoir des films. C'est un peu comme les films à sketch, mais là, c'est numéroté.
Ah oui, tout à fait.
Maintenant, on va s'apesantir là, on va étudier tel personnage, telle action, et voilà. Et c'est pas mal. C'est un point de vue cinématographique très intéressant.
Et donc, le scénario serait celui d'un western spaghetti se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah, c'est tout à fait ça.
Bah, on connaît ce qu'il a fait derrière, justement.
Ah bah oui, on est carrément dedans. Le film est tourné en France et en Allemagne à la fin de l'année 2008 et a été, en 2009, donc un succès commercial et critique et a reçu de multiples récompenses.
Oui.
Dont Waltz qui a fait... lui, il a tout ratissé, mais vraiment, c'est, je sais plus, ils sont très peu d'acteurs à voir sur du second rôle comme du premier rôle fait...
Oui.
Le grand chelem.
Il a
redoublé sur une autre rencontre de Tarantino dont on va parler après.
Mais au moins c'est mérité.
Ah parce oui.
Justement, le film est marquant et son personnage est plus que marquant. Comme tu disais, second rôle au départ,
Mais
tellement important qu'on se dit que c'est un premier rôle bis.
Ah, il est monstrueusement magnifique. Mmh. C'est vraiment ça. Et le titre du film est un hommage, parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose quand même, Inglourious Bastard, au titre anglophone d'une poignée de salopards.
Mmh.
The Inglourious Bastard.
Ouais.
Et Tarantino, je pense aussi pour ne pas payer des droits, a fait The Inglourious, donc on change, une faute d'orthographe volontaire, Bastard.
Oui.
Voilà.
C'est tout volontaire.
Ce qui est une autre manière de le prononcer, et hop, j'ai pas fait comme les autres.
Et c'est une méthode pour rendre hommage et pour montrer qu'il a de la culture et qu'il a envie de dire aussi aux gens, bah, allez le voir aussi celui-là.
Oui, voilà. Et donc ce film d'Enzo G. Castellari s'inspire lui-même des 12 salopards.
Ouais.
Alors là, on l'a un peu plus. On l'a un peu plus. Mm. Donc la distribution, on l'a dit, Brad Pitt qui joue le lieutenant Aldo Raines. On a Christopher Waltz qui joue le colonel SS Hans Landa, dit le chasseur de juifs. Mélanie Laurent qui joue Shoshana Dreyfus. Michael Fassbinder qui joue un excellent lieutenant Archie Cox.
Mm.
Mais alors la scène dans le bar, c'est monstrueux.
Mm.
Le fameux bar où il se fait... Enfin bref, allez voir.
C'est un film à voir.
Et il y a Eli Roth aussi qui joue le fameux l'ours juif, parce qu'on a l'antagoniste. C'est une gueule, c'est une baston de personnages et de réputation. Là.
Et Eli Roth est également un des personnages, du moins un des acteurs qui a beaucoup fait de films avec Tarantino.
Oui,
donc il y a une connivence et une facilité de jeu.
Et on n'a pas fini, on a aussi Diane Kruger qui joue Bridget van Amersmark. Voilà. On a Daniel Brühl, et je ne l'avais pas reconnu parce que je n'avais pas encore vu à l'époque le magnifique film avec Niki Lauda.
Oui.
Voilà. Et alors là, Daniel Brühl qui joue le fameux soldat Frédéric Zoller, donc La fierté de la nation, le film dans le film.
Oui.
Alors ça aussi, on pourra en faire une spéciale là-dessus, sur le film du film. C'est très évocateur aussi.
Bonne idée.
Donc voilà, oui. Ah bah ça y est, une nouvelle idée. On n'est pas dans la bouise, les copains.
Saison prochaine.
Donc voilà. Voilà. Et sinon, on en parlait, il y avait Charlotte Lapadite, donc je me disais bien que je la connaisse, elle est assez doux. Mais alors elle, on la voit juste au début, on ne la voit plus après. Hein. Et Denis Ménochet, donc, qui joue Perrier Lapadite. J'aime beaucoup les noms. Les noms, ça roule.
Et plein de noms connus, mais si on devait faire tous les noms, l'émission, elle est terminée.
Ah bah oui, c'est ça, on a aussi Samuel L. Jackson, qui est le narrateur, qui joue un officier.
Déjà, ça fait un quart d'heure qu'on en parle.
Ah mais c'est quand même
le gars. Mais il y a tellement à dire.
Voilà. Il y a tellement à dire. Donc voilà, on est d'accord. Donc Landa reste à la base un second rôle.
Oui.
Et c'est pourtant le personnage principal du film, qualifié par Tarantino de héros, parce qu'il explique que le film montre qu'à la fin, l'histoire retiendra que le héros de cette aventure, c'est Hans Landa. Voilà, c'est son plan, il en est le héros, il recevra la médaille d'honneur du Congrès, etc., etc. Mais l'histoire ne dira rien de Shoshana. Voilà. C'est toute la particularité du film. Ça reste un second rôle, mais mine de rien, il prend toute la lumière.
Voilà.
Il prend toute la lumière.
Et pour la musique ?
Ah bah la musique.
Hein, parce que là, j'ai remis David Bowie justement avec Cat People pour le plaisir, c'est quand même David Bowie.
Mais il n'y a pas que Bowie.
Mais il n'y a pas que Bowie.
À la base, Tarantino, pour son chef-d'œuvre, alors je pense qu'il ne le pensait pas à ce point-là, voulait Ennio Morricone. Quand même.
Oui.
Bon, c'est pas con pour un western spaghetti.
Il sait écrire.
C'est ça, Sergio Leone, Ennio Morricone, il y a un truc, voilà. Cependant, Morricone n'était pas disponible. Donc, ça n'est pas Ennio Morricone qui est aux manettes, mais il y a du Morricone dedans, et pas que. Bien entendu, il y a du Bowie, il y a d'autres choses, on s'inspire d'eux, on reprend, on va piocher, pour nous faire une magnifique bande-son aussi.
C'est ça, Tarantino aussi, c'est une très grande culture musicale, et pour rendre hommage justement à ce grand compositeur, mais également à d'autres, il demande l'autorisation.
Ah oui, c'est ça. Il a pioché, on a 8 morceaux de Morricone dans le film, dont 4 disponibles sur le CD de la bande originale qui a été commercialisée. La bande originale donc intègre d'autres morceaux issus du Western Spaghetti, le rhythm and blues et le rock. Oui. Ça va bien. C'est souvent utilisé dans ce type de film.
On va dire qu'il y a un petit décalage par rapport aux années 40, justement, où ces styles musicaux n'existaient pas. Mais c'est ça aussi le plaisir de Tarantino, de savoir composer et décomposer pour faire quelque chose de neuf, mais qui fonctionne.
Il n'a pas eu Morricone, mais il n'a pas vampirisé à l'arrache. Je pense que les gars ont quand même réussi à parler sur... Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, c'est
parce que
de toute façon à ce niveau-là, je pense qu'on se parle.
Parce que quand on regarde justement la setlist de la bande son, il y a quand même donc en plus d'Ennio Morricone, il y a du Charles Bernstein.
Il y a Bernstein, Billy Preston,
le compositeur de musique dont on a déjà parlé, mais Billy Preston qui lui est dans le rock and roll.
Oui.
Et d'autres, on les connaît pas forcément, mais Lilian Harvey et Willy Fritsch musique allemande.
C'est ça, on n'a pas peur d'aller chercher une pépite, et tant pis si on connaît pas le gars. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup.
Et pareil, on a Lalo Schifrin, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et quand on regarde, pareil, je parlais en allemand, mais Zara Leander, pour un autre titre en allemand. Oui. Voilà, c'est comme il y a des scènes qui se passent avec des Allemands.
On est sur du folklore allemand, festif, machin, truc et compagnie. Donc évidemment, il nous faut l'atmosphère musicale.
On est dans du décalage, mais avec des marqueurs quand même spécifiques.
C'est quand même assez fort parce que pour un western spaghetti, c'est vraiment un truc de scène parce qu'il y a vraiment des scènes iconiques dans les chapitres. Mais vraiment, il arrive en fait en nous faisant basculer d'une scène à une autre, à nous faire tout de suite. On sait où on est, on sait dans quel machin on est. Changement de personnage, changement de musique, on a l'atmosphère, on sait qui, c'est un peu comme Williams. C'est-à-dire, c'est pas sur 3 notes, mais on voit le jeu des acteurs, il y a un jeu dans le jeu, il y a un film dans le film, c'est un très très bon Tarantino. Et moi je m'en lasse pas, j'avoue. Et on n'a même pas besoin d'un 2, le coup. Parce qu'il se finit, il se finit comme ça, c'est logique. Il est logique dans sa logique et il finit la guerre. Donc qu'est-ce que ça va se faire chier avec un 2?
Mais là, comme on en a plein parlé et qu'actuellement en fond sonore, c'est la musique de Carnage.
Ça tombe bien. Dis donc, il m'a niqué mon entrée, le monsieur.
Ça serait bien qu'on laisse un petit peu de musique pour les auditeurs, que ça les repose les oreilles.
C'est vrai.
Allez,
c'est vrai.
Je remonte un peu le son. Je vous laisse avec une musique de Alexandre Desplat du film Carnage. À tout de suite. C'est tout léger, ça, quand même. Ça fait du bien.
C'est pas mal. On aime bien. On aime bien. Et ça change du tout au tout.
Parce que là, c'est vrai qu'on parlait de plein de musique western spaghetti sur un film de guerre et compagnie. Allez, on va faire un peu la paix. Quoique, un film qui s'appelle
alors,
Carnage.
Oui, la, ma transition des bastards au Carnage n'est pas innocente.
C'est ça.
C'est ça. Et ça reste Christopher Waltz.
Ouais.
Fidèle à lui-même, pour le coup. Et voilà. Donc, Carnage, film franco-germano-polono-espagnol. C'est pour moi, je me suis fait plaisir.
Il y en a un
voilà.
peu plus, je vous le mets quand même.
C'est ça, co-écrit et réalisé par Roman Polanski. Tarantino Polanski. On est loin de Derrick. Hein.
Ouais,
voilà. Mais on.
En 2011.
On n'a pas fini, on est en 2011. Adaptation de la pièce de théâtre Le Dieu du Carnage de Yasmina Reza. Donc, c'est presque un huis clos.
Oui.
Et alors, cette musique que Yves nous passe et qui finalement est.
Elle est enveloppante.
Répétitive,
elle
enveloppante.
Est répétitive, mais enveloppante.
Eh ben, elle a un intérêt seul, c'est qu'elle elle ne fait que magnifier le silence, parce que toute la tension passe dans le silence.
Et j'allais dire, justement, elle est presque joyeuse. Parce qu'il y a une petite innocence un peu derrière.
Alors, je ne pense pas qu'elle soit utilisée en pleine guerre. Oui. Parce que quand on sait... D'ailleurs, je vais vous le faire, le petit synopsis, puisqu'il ne m'introduit pas. Alors,
voilà.
Je vais m'introduire.
Restons polis, mon cher. Allez-y, mon cher, un petit synopsis, si vous voulez bien.
Oui, parti. Alors, un petit synopsis. Deux couples new-yorkais se rencontrent pour régler calmement une dispute entre leurs enfants. Alors ça ouais. On sait tous comment ça finit en général, mais bon, après, c'est pas moi que ça regarde. Mais très vite, les politesses s'effritent, les tensions sociales, conjugales et personnelles explosent dans cet appartement clos. Les masques tombent, révélant hypocrisie, frustration et agressivité. Chaque personnage passe de la civilité à la cruauté. Le huis clos devient un champ de bataille psychologique. Le dialogue est l'arme principale et l'ironie omniprésente. Une satire mordante des relations humaines et de la bourgeoisie.
Ouais.
Alors c'est très rigolo, mais quand on connaît le colonel Hans Landa, c'est tout à fait ça. Il est capable de discuter, de servir du champagne à un moment, et la seconde d'après, il saute de son siège et il étrangle la personne.
Ouais.
C'est impressionnant. Et oui, c'est ça, c'est le lion déguisé en agneau.
Et au niveau des acteurs de ce huis clos, bah on se retrouve quand même avec quatre magnifiques acteurs et actrices.
Bah oui, qui sont mon cher Yves?
Bah on a Jodie Foster.
Oui, qui joue Penelope Longstreet.
On a Kate Winslet.
Nancy Cohen.
Donc Christopher Waltz.
Alan Cohen.
Et John C. Reilly.
Qui joue Michael Longstreet.
Donc voilà, quatre belles têtes d'affiche pour un film bon, qui malheureusement... comme c'est un huis clos, c'est un peu difficile à mener au cinéma et ça n'a peut-être pas, on va dire, eu totalement le succès qu'il aurait pu avoir pour un film de Polanski.
Ouais, mais voilà, c'est Polanski, c'est un peu comme
intéressant.
Ouais, c'est ça, c'est Polanski, c'est un projet longue date en plus de Polanski. Qui avait assisté à une représentation de la pièce à Paris et qui s'est mis en accord avec Yasmina Reza sur les conditions d'une adaptation pour le cinéma. Ils ont écrit ensemble le scénario. Ça beau.
Ouais.
Puis au moins, t'es sûr que tu maîtrises.
Voilà, oui.
Tu te trouves pas dégoûté par
mais
le truc
après. Mais quand parfois certains voient les adaptations,
il y en a qui
n'aiment
pas.
Ouais,
non, c'est ben voilà.
Mon film, c'était un Thémis, vous en avez fait un truc explosif. Bah non.
Oui, voilà. Bah oui, ça arrive. Et ils se mettent d'accord sur la transposition de l'intrigue à New York avec un casting d'acteurs anglais. Anglo-saxon.
Oui, il y a ça.
Donc
aussi.
C'est bien. L'avantage, c'est que Waltz, lui, au niveau des langues, ça se passe
bien. Et Jodie Foster
aussi,
également.
Aussi, voilà. Bon, sinon, l'histoire elle se déroule à New York. Le film a entièrement été tourné, par contre, dans les studios de Brie-sur-Marne.
C'est sympa.
Alors, c'est sympa, dans le Val-de-Marne, en France. La raison est plus... Voilà, en raison de la quasi-certitude d'arrestation judiciaire du réalisateur s'il se rendait aux États-Unis.
Oui, il est toujours sous le coup d'une inculpation un peu compliquée.
Voilà.
Et donc,
tout. On parlait de la musique.
Comme je l'ai cité, c'est Alexandre Desplat pour la musique. Mais comme tu disais, elle est quasi absente à part justement ce petit... ces petits moments où...
Je pense que là, on est sur le générique ou l'introduction, ça ressemble vraiment à ça. Et ensuite, je pense que la caméra se pose et là, ça doit cartonner un peu plus.
Et, donc,
et le silence, c'est vraiment les dialogues portent toute la tension. Mais qui est-il, Alexandre Desplat, mon cher Yves?
Un compositeur pour des films et téléfilms français depuis 1985, qui se fait remarquer au niveau international en 2003.
Avec tu comprends pourquoi j'ai voulu en parler un peu plus, il me fait penser à Waltz.
Ouais, avec la bande originale de La jeune fille à la perle. C'est un français.
Oui.
Donc, avoir des Français qui réussissent à l'international, c'est une preuve aussi de qualité.
Bah, dans la musique de film, c'est compliqué aussi. Alors, ce serait encore plus compliqué. On avait parlé des compositrices, mais lui a commencé. Alors, je ne l'ai pas noté pour le principe. Il a fait des musiques pour Enrico Macias, il a fait des musiques pour tout un tas de personnes.
Oui.
Il faut bien commencer quelque part. Et il est dit qu'il a commencé le jour où il a vu une musique de Star Wars, je crois, machin et compagnie. Il est passé. Il faisait des musiques pour les copains, lui.
Oui.
Bah, c'est souvent comme ça. Hein.
Bah,
Faut s'entraîner. Hein. On commence dans une radio et puis un jour, on anime des émissions en côte. Bon, c'est autre chose. C'est autre chose.
Et donc, bah, grâce à ce film en 2003, donc, La jeune fille la perle, il est de plus en plus demandé à l'étranger.
Bah, oui.
Notamment donc, par le cinéma américain. Ouais. Et de plus en plus grand réalisateur sur des films de plus en plus gros. Mais il est quand même compositeur régulier également de nombreux réalisateurs tels que Jacques Audiard,
oui, qui est parti aux États-Unis aussi, Wes Anderson, Roman Polanski, Florian Emilio Siri, Stephen Frears, Georges Clooney et Guillermo del Toro.
Ouais.
Il a également écrit la musique de documentaires, de pièces de théâtre et de spectacles. C'est beau ce que je trouve dans ces deux personnages, c'est pas parce qu'ils sont partis dans quelque chose d'énorme, de grand, d'hollywoodien, de monstrueux, qu'ils ont renoncé à faire ce qu'ils aimaient faire.
Ouais.
Alors le type a commencé dans des documentaires, dans des trucs, voilà. Il prend ce qui vient aussi.
On renie pas son passé en ayant juste monté, on va dire, en grade dans certaines conditions et on continue.
Non, parce que je pense qu'il y a une certaine humilité quand t'as mis du temps à monter comme ça. Tu sais que si t'es monté d'un coup, tu peux redescendre.
C'est pour ça que je pense aussi le succès de Christopher Waltz est à cette image-là également. Il a 50 ans,
c'est arrivé naturellement.
Il a fait plein derrière lui, on va dire, des petits téléfilms et compagnie.
Tout, ouais.
Et que tout d'un coup, t'es reconnu. Tu sais d'où tu viens, tu sais par quoi tu es passé. Et donc, tu sais que ce qui arrive aussi fort, comme tu dis, peut très bien repartir aussi vite. On en a combien qui, malheureusement, se sont grillés
ça, bien sûr, et sur toute profession. Hein. Donc, voilà. Donc, Desplat a reçu de nombreux prix pour son travail, dont 2 Oscars pour 12 nominations.
Ouais, ouais.
Donc, ça va nous permettre de faire un petit tour de ses films. The Grand Budapest Hotel, que je vous conseille fortement.
De Wes Anderson.
Énorme. La forme de l'eau, 3 Césars, De battre mon cœur s'est arrêté, The Ghostwriter, 2 Rouillés d'os, 2 BAFTA Awards. Le Grand Budapest Hotel, Le Discours d'un Roi, évidemment, 2 Golden Globes, La Voile des Illusions, La Forme de l'Eau, 2 Grammy Awards, Le Discours d'un Roi, Le Grand Budapest Hotel et 8 World Soundtrack Awards.
Et pour justement avoir autant de prix aussi importants, ça prouve la qualité.
Ouais, c'est ça, mais quand même la discrétion, quand t'écoutes des plats sur des films français et compagnie, c'est pas Hans Zimmer, t'as pas idée qu'il y a un studio monstrueux derrière. Alors après, Zimmer sait faire dans le... Mais c'est vrai qu'il est plus attendu sur des trucs, des productions monstrueuses et compagnie. En même temps, il a les épaules pour le faire. Hein. Donc voilà. Mais c'est très intéressant et j'aime beaucoup des plats et cette espèce de parallèle avec Waltz que je trouvais très intéressant. Voilà. Et sinon, l'éléphant soit vive.
Et allez, on va quitter le carnage. On va aller dans quelque chose de plus circassien. On va dire pas forcément plus léger, puisqu'on va être dans le monde des éléphants.
Oui.
Mais les éléphants sont très délicats.
Oui.
Donc, on va peut-être écouter cette petite délicatesse avant de justement, de quel film nous parlons, on va pas le dire. Musique d'abord.
À tout de suite.
Thank you.
de l'eau pour les éléphants. Voilà.
De voilà. l'eau pour les éléphants.
C'est...
Voilà.
C'est quand je disais qu'on était dans le monde circassien.
Ah ben,
voilà.
La transition est parfaite.
Ouais.
On est totalement dedans. Donc, de l'eau pour les éléphants, Water for Elephants, yes, Coco,
oui.
est un film américain de 2011 réalisé par Francis Lawrence et inspiré du roman du même nom de Sarah Gruen.
Et t'as vu, à nouveau, 2011 après Carnage. Donc c'est vraiment...
Ah bah il a enchaîné, derrière il a explosé.
Il a explosé.
Et par contre, il part sur des projets...
Voilà.
C'est assez intéressant.
Très varié.
Voilà, et on parlera après d'un peu plus de sa filmographie, parce qu'on va pas pouvoir tout vous faire en une heure,
non.
spoiler alerte, c'est pas possible.
Mm.
Mais voilà, apportons de l'eau à l'éléphant. Durant la Grande Dépression, dans les années 30, le train des petits cirques ambulants sillonne les États-Unis. Jacob Jankowski, orphelin sans le sou, saute à bord de celui des frères Benzini et de leur plus grand spectacle du monde. Embauché comme soigneur, il va découvrir l'envers sordide du décor. Tous, hommes et bêtes, sont pareillement exploités dans un monde violent où l'amour est un luxe. En effet, Jacob tombe amoureux de Marlène, artiste équestre, mariée à Auguste, directeur autoritaire et instable. On vous dira qui c'est, mais vous vous doutez, je pense.
Oui.
Ouais, il le joue bien. Entre passion interdite et violence latente, Jacob découvre un univers à la fois magique et impitoyable. Les animaux, notamment Rosie l'éléphant, deviennent des figures centrales. C'est pas banal sur un film,
mais...
ça. Le récit alterne entre souvenir et présent, offrant une réflexion sur le temps et les choix de vie. Le cirque apparaît comme un microcosme de la société.
Bah, voilà, oui, normal.
Voilà, voilà, voilà.
Et on a une très, très belle distribution.
Oui, Reese Witherspoon,
ouais.
qui joue Marlene Rosenbluth. Robert Pattinson, Jacob Jankowski.
Donc un certain Christopher Waltz.
Ouais, qui joue Auguste Rosenbluth.
Ouais,
voilà,
le mari.
Oui,
et le patron.
C'est ça. Voilà, voilà. Le gars qui irait bien te mettre les doigts dans la prise, histoire de voir si ça fait de l'électricité. Taille.
C'est l'éléphante.
Rosie, voilà. Ouais. Jane French qui joue le tuteur de Rosie. Hall Albrook, Jacob Jankowski âgé. Et Paul Schneider qui joue Charles O'Brien.
Et en musicien qui a composé
la musique. Un
certain
James Newton Howard, pas un inconnu non plus, où la musique mêle lyrisme romantique et ambiance foraine. Bah, on a eu les deux.
On n'a pas encore eu trop l'occasion d'en parler de ce monsieur. Donc justement, voilà, de parler de Christopher Waltz, ça permet de venir à James Newton Howard.
Et c'était fait pour mon chéri.
Bien
donc,
vu.
Il a commencé à étudier la musique, cet homme-là, jeune.
Mm.
S'est ensuite spécialisé dans le piano à l'Université de Californie du Sud. A suivi Elton John comme claviériste, c'est marrant, ça me rappelle un certain Hans Zimmer qui a commencé, voilà. À la fin des années 70 et au début des années 80, il écrit aussi des arrangements de plusieurs des chansons d'Elton au cours de ces périodes. On lui doit notamment le célèbre arrangement pour cordes sur Don't Go Breaking My Heart et Sorry Seems to Be a
The Hardest World. Et c'est cette chanson-là, justement, si vous la connaissez d'Elton John, elle est super émotionnelle.
Ah oui.
Donc justement... Quand vous vous dites c'est une chanson qui est aussi magnifique et qu'on découvre que c'est lui, on se dit je pense que pour faire des films il doit savoir y mettre de l'émotion.
C'est ça.
Et ça s'entend là en fond sonore actuellement.
C'est comme de chercher du Goldman dans du Johnny. Tu sais les chansons, tu reconnais, tu reconnais même certains accords. C'est comme Céline Dion. On y va pour, moi j'y vais pour Goldman. C'est très bête, mais ouais, on y va pour les textes. Donc voilà. Mais revenons. Monsieur Newton Howard. Il n'a pas fait que Elton, il a fait aussi Graham Nash.
Ouais.
Avant de commencer une carrière dans la musique de film au milieu des années 80, il collabore brièvement avec Elton John en 87 encore en conduisant le Melbourne Symphony Orchestra où le chanteur exécutait une setlist de chansons orchestrées de son catalogue, j'imagine avec un orchestre symphonique derrière, comme l'ont fait d'autres, genre Scorpion, je vous conseille Scorpion, allez voir aussi. Ça c'est formidable, c'est monstrueux.
Metallica également,
et
plein d'autres, également chez les Français.
Quand
on a justement un compositeur qui comprend la musique, qui justement a déjà été dans le milieu populaire et s'y connaît en musique orchestrale, il saura manier les deux et marier les deux.
Rien que d'en parler, c'est... Scorpion, mais l'album philharmonique, c'est... Wow. C'est une baffe dans une baffe, puisque déjà, c'était formidable. Le studio personnel de James, parce que c'est de lui qu'on parle, malgré tes digressions, Yves. Ça suffit.
Est
situé à Santa Monica, en Californie, il y écrit ses chansons avant de les renvoyer aux différents studios pour l'enregistrement orchestral. Voilà. En 94, il compose le générique de la série télévisée à succès Urgence. par exemple. Ouais. Voilà, je trouvais ça intéressant.
Et également le film Sixième Sens en 99.
Oui. Et il développe une collaboration privilégiée avec Monsieur Night Shyamalan, pour lequel il a composé notamment les partitions de Incassable, Signe, La Jeune Fille et l'eau, Le Village. Et cette dernière partition était sélectionnée aux Oscars 2005 dans la catégorie Meilleure musique de film. Leur dernière collaboration remonte en 2013 avec After Earth.
Mais bon, ça ne veut pas dire que, c'était, que c'est fini. C'est pas... Ils y reviendront. Hein.
Oui, en 2005, parce qu'en 2005, bon, ils participent à la bande originale de Batman Begins
de Christopher Nolan
avec un certain ami Hans Zimmer.
Oh
oui, ah bah oui, non, mais les deux se connaissent, les deux vont sur scène, les deux joueront ensemble plus tard. Enfin, c'est une très très longue histoire avec d'autres gens aussi. Les deux compositeurs réitèrent leur duo en 2008 avec The Dark Knight. Bah oui, quand la soupe est bonne et quand ça fonctionne aussi bien que ça, évidemment, du même réalisateur. Voilà. Mmh. On en a déjà parlé.
Tu veux qu'on change de domaine ? On était avec des éléphants et souvent, comme on dit oui autour des éléphants, il y a des insectes.
Oui.
Et là, on va peut-être
une grosse,
se retrouver.
Oui. Mais mets-nous de la musique d'abord.
Un insecte un peu vert. Allez.
Oui. Oui.
Mais
nous,
je vous envoie une petite musique
d'aller à tout de suite.
Qui s'appelle Something Cool. Ouais, mais celui-là, je sais pas s'il est cool. Allez,
Voyons. On
envoie. C'est sympa cette petite musique.
Oui, c'est pas la même qu'on écoute, mais là on écoutait la musique du
Frelon Vert.
Voilà,
tiré
de la BD et de la série avec qui dedans?
Un certain Bruce Lee. Ah,
c'est ça. À l'époque de Batman où Batman avec la batéchelle, le machin, avec les onomatopées écrites dans le voilà. C'est toute une époque. Voilà. Et le film essaie de retranscrire ça. Alors essaie. Bon, il n'a pas fait.
La série est de 66.
Oui, voilà,
donc,
c'est ça.
L'adapté.
On est
en
dans
2011,
un autre monde.
Voilà.
On est dans un autre monde.
Et c'est Michel Gondry
qui
l'a
donc
fait.
Voilà, c'est...
Donc, lui, il a vécu, on va dire, le truc en vrai. Donc, je pense qu'il y a le souvenir de gamin qui veut faire le truc. On va dire que ce n'est pas le caprice de gamin, mais il y a le truc. Ouais. Allez, mais est-ce que tu arrives à le faire au cinéma?
Oserais-je dire que c'était mieux avant quand on est gamin? Tu n'as jamais regardé un film que tu avais vu gamin en disant « Putain, ça déchire tout ». Tu regardes le film, tu te dis « Oh !» Et puis en plus, alors... En passant sur le fait que ça a pu vieillir.
Ou nos dessins animés préférés que quand on regarde maintenant, on se dit...
Tu le regardes d'un autre œil.
Ah ouais, bah oui, tu le regardes avec un œil adulte et ça fait parfois
des
étrange
fois,
de dire
«
Mais j'ai regardé ça !»
Oui, non, en fait, c'est moi qui... Voilà, c'est nous qui avons évolué.
Et qu'on courait depuis l'école pour ne pas rater l'épisode parce que le lendemain, on allait
c'est
en parler
ça,
dans la cour de récré
en
mangeant notre tartine de confiture du goûter.
Merci, Dorothée.
Voilà.
Pardon, excusez-moi, je règle des comptes. Hein, voilà. Je ne suis pas Ségolène.
Allez, sors-nous quand même le petit synopsis.
Donc oui, ça va être vite vu. Brief Red est le film de James Red, jusqu'ici tout va bien. Voilà, le propriétaire du quotidien The Daily Sentinel. Ouais, c'est un super-héros, il faut quelqu'un avec un journal, sinon faut pas, on peut pas parler.
Oui.
À Los Angeles, Brit est aussi un fêtard invétéré, un peu immature et sans ambition. Lorsque son père décède subitement, Brit se retrouve à la tête du journal et découvre en même temps les talons de Cato. le chauffeur et mécanicien de son père, par ailleurs spécialiste en café. Oui, alors lui, ils ont deux CV. Il y en a un, c'est un branleur invétéré, excusez-moi pour le terme, mais là, on ne peut pas être mieux. Et l'autre, c'est un mélange de Bruce Wayne, de je ne sais pas. C'est le gars qui apporte toute la technique et le café.
Oui.
Voilà. Bon.
Voilà.
Mais admettons, chacun ses films. Voilà. Donc Bride se retrouve à la tête du journal, c'est dit, et Cato fait le boulot. Bon,
voilà.
C'est vraiment ça. Le chauffeur est mécanicien de son père, on l'a dit. Voilà, ingénieur, spécialiste en arts martiaux, en café aussi, en café. Ouais. Bricoleur de génie.
Et
pendant ce temps, Chudnovsky, un criminel impitoyable, est en son contrôle, sur tous les gangs de Los Angeles. Un peu malgré lui, Brief Red devient un héros masqué. Bah, c'est vraiment un peu malgré lui, parce que lui, à la base, il pensait qu'à faire la Nouba.
Oui.
Voilà, il n'avait même pas envisagé d'avoir un journal. Bon, héros masqué, ennemi du crime sous l'identité du Frelon Vert, avec l'aide de Cato. Ouais, avec l'aide, avec un A majuscule.
Heureusement qu'il est là.
C'est ça, chauffeur et surtout concepteur de la Black Beauty, une voiture truffée de gadgets et de missiles. D'ailleurs, Voilà.
Et à la distribution, ce film.
Voilà, Seth Rogen qui joue Brief Red et le Frelon Vert.
Ouais.
Jay Chou qui joue Cato,
Cameron Diaz,
qui joue pas le méchant,
et un certain
qui joue Benjamin Chudnovsky alias Hemoglobinski, j'ai réussi à le dire, c'est Christopher Waltz.
Qui est la tête d'affiche de notre émission de ce
jour. C'est ça que j'ai mis dans le générique parce que je trouve cette scène totalement lunaire avec un flingue à deux canons où il bute un mec simplement parce que qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas assez de charisme, je suis un méchant dans une veste. Voilà, c'est un bonheur, rien que pour ça allez le voir, c'est très rigolo. Et le doublage est, comme d'habitude, très très bien fait en français. Je pense pas que ce soit lui qui l'ait fait sur le coup-là, mais ça reste sympa.
Ouais.
Ça reste sympa. Après, le film en lui-même,
Voilà. Il est anecdotique, mais il y a quand même aussi...
C'est Michel Gondry,
Et en musique, on vient d'en parler. C'est
James
également...
Newton Howard, également. Les influences jazz et rétro, on les a bien, on est très bien. C'est magnifique.
Mais
le temps passe, mon chéri.
Il y a ça. Et on va peut-être passer sur un autre film qui a été
consécration.
Super marquant. On a... on passe la musique avant.
Oui. Et faisons ça. Ça nous mettra l'ambiance.
On en reparle après.
On
en reparle après. Un peu dans le western, là, on dirait. On y est carrément.
Et on va parler d'un...
D'un film
D'un temps qui est moins de 20 ans et d'un film référencé qui parle d'un sujet grave. Et encore une fois, Tarantino s'y colle, mais avec sa manière.
Oui.
On parle de Django, esclave affranchi, qui devient chasseur de primes sous la tutelle du docteur Schultz. Voilà. Ensemble, ils traquent les criminels tout en poursuivant un objectif personnel de Django. Libérer Broomhilda,
l'épouse de Django.
C'est ça. Ouais. Leur quête les mène à une plantation dirigée par Calvin Candy. Le film mêle western et critique historique avec une violence très stylisée, oui, pour le coup. Voilà. Django évolue en héros déterminé, tandis que Schultz incarne une figure morale ambivalente. Comme d'habitude, et vous devinerez qui joue Schultz, oui, plus tard. Voilà. Le récit culmine dans une vengeance spectaculaire.
Et donc, comme on ne l'a pas vraiment cité, mais vous avez reconnu, c'est Django Unchained, film de 2012. Ça.
Avec Jamie Foxx pour Django, Christopher Waltz pour, qui joue King Schultz, le docteur, Leonardo DiCaprio qui joue Calvin G. Candy, Kerry Washington qui joue Broomhilda von Schaft. Et il y a une histoire dans l'histoire, alors je ne sais pas si c'est un caméo, s'il fallait mettre un Allemand, c'est très rigolo. Et Samuel L. Jackson qui joue
le
Stephen, le majordome. Voilà.
Quand même, quand Tarantino avait exprimé depuis plusieurs années son intention de réaliser un western spaghetti pleinement.
Ah, c'est pas comme s'il avait déjà collé du Morricone partout.
Il avait
de
déjà
Sergio
justement fait pas mal d'idées dessus, mais là il y a carrément, notamment un hommage donc à ceux de Sergio Leone. Voilà. Et le titre The Angel, The Bad and The Wise avait d'ailleurs été évoqué au début
c'est
en
ça,
référence.
Le bon, la brute et le truand.
Mais voilà. Là donc c'est par rapport, il y a eu des films Django qui ont existé avant. Là c'est pas une suite, c'est un hommage, mais à la sauce Tarantino.
Donc voilà, Waltz joue pour la deuxième fois dans un Quentin Tarantino. Ouais. Là, c'est pareil, là, c'est la consécration. Le Walk of Fame, l'étoile, la complète. Il fait le plein de tous les prix possibles. Tarantino dira « J'aimerais faire un western, mais plutôt que de le situer au Texas, faisons-le à l'époque de l'esclavage. » C'est du Tarantino dans le texte, c'est-à-dire on mélange les... Voilà, c'est assez sympa.
Mais...
Ce sujet, tout le monde a peur de le traiter. Bah oui, pour cause. Il faut qu'on l'éclaire nous-mêmes. Vous pouvez faire un film sous la forme d'une leçon d'histoire gonflante sur des histoires...
Ouais,
sur des esclaves qui s'échappent grâce au chemin de fer clandestin. Barbant. Ou vous pouvez faire un film excitant, aventure, un western spaghetti qui se passe à cette époque.
Ouais.
Ça a été dit en 2011. La bande originale, mon cher Yves, inspirée par le film Django, réalisée par Sergio Corbucci.
Avec encore pas mal d'inspiration de plein d'autres musiciens, à nouveau Ennio Morricone.
Oui. Ah bah oui. Entre autres.
Et parfois, il y a aussi des artistes qui sont... Il y a Jamie Foxx qui chante
dedans.
Ça,
c'est pour des dialogues, parce qu'il y a toujours dans les musiques de Tarantino des morceaux de dialogue. C'est genre Pulp Fiction, c'est très rare qu'on n'y ait pas.
Ouais, il adore faire les mélanges.
Ah, oui,
et il y a du Louis Bacalov.
Ouais, Don Schrone, Jim Cross, Riz Ortolani, et d'autres. James Brand.
Il aime bien justement aussi mélanger avec... comme tout à l'heure, du rock'n'roll, Richie Evans.
Ou
du Johnny Cash. Il adore la musique, donc il faut mettre de la bonne musique.
Tout à fait, mon cher.
Bon, on, malheureusement, je vois
va
déjà...
Va falloir qu'on raccourcisse. Et justement.
Je vois déjà alors, on est à 5 minutes, on va dire, de la fin de l'émission. Donc,
on raccourcit.
On va raccourcir. On en a tellement à dire.
Voilà, et raccourcissons. Et justement, on va parler de downsizing.
Ouais.
Rapidement, où Waltz incarne un personnage extravagant et libre. C'est toujours lui, il y a deux qualificatifs et on fait des grands écarts. Film dystopique, récit d'anticipation doublé d'une satire sociale qui a été présentée en avant-première à la Mostra de Venise en 2017. En gros, dans un futur proche, le scientifique norvégien, je vous passe le nom,
Jørgen Absjørgensen.
Merci, maître de Capello. Mais au point de la miniaturisation cellulaire des êtres vivants. Par contre, c'est irréversible.
Ouais.
Et c'est important. Le but de l'entreprise qui a mis au point cette technologie est d'officiellement de réduire la surpopulation et de promouvoir la décroissance. Le diable se cachait dans les détails aux États-Unis. Et voilà, cette technologie est progressivement détournée pour les Américains de classe moyenne pour accéder à un niveau de vie supérieur et consommer plus maison, nourriture, parure de diamants. Quand c'est plus petit, ça coûte moins cher.
Ouais.
Et voilà. Et là, on va parler d'un héros qui va se faire rétrécir la tronche parce qu'il est cerné par les crédits, qui pensait y aller avec sa femme, mais sa femme, elle le fait pas.
Ouais.
Et le gars se retrouve tout seul. Tant pis.
Ça,
donc,
c'est
voilà.
Fait.
Et il se retrouve tout petit, 12 cm, donc... joué par Matt Damon, à aller rencontrer les gens de ce nouveau monde, dont Christopher Waltz, qui joue un espèce de méchant qui arrivait là parce qu'il pouvait faire des paris, certainement pour les mêmes raisons, vénal. Mais le gars est ambivalent, cherche la liberté, il a sa femme de ménage, qui est une ancienne extrémiste vietnamienne qui a été réduite elle aussi contre son gré par son gouvernement. Oui. Voilà, ça commence à faire un espèce de bouquet tout en couleurs et ils vont tous évoluer là-dedans. Matt Damon va s'éprendre justement de cette vietnamienne. Happy ending à la fin, dans le sizing. Voilà. Qui a à peine réussi à couvrir les dépenses.
C'est...
Bah, on aime, on n'aime pas.
Quand tu fais des films d'anticipation, pas toujours évident. C'est... Et quand tu fais une critique du modèle américain...
Ça passe ou ça passe pas. C'est... Mais là, sur le principe, ça peut être intéressant. Et voir Matt Damon, justement, à contrario des gros blockbusters, des La mort dans la peau, de ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi. Il joue tout en subtilité. Et c'est pas mal. C'est pas mal de le voir là-dedans, notamment aussi dans Monument Mind. À la musique, on a Rolf Kent, et on l'entend actuellement. Rolf Kent, subtil, mélancolique, compositeur britannique, université de Leeds, inspiré par Bernstein, Goldsmith et Barry. Notamment, et vous allez vous en rappeler, il a fait la bande-son de Dexter.
Ah ouais.
Ah bah oui. Ah bah oui. D'autres films, The Matador et compagnie. Donc voilà, ça c'est un peu des... Les Chèvres du Pentagone qui est excellent, vous conseille d'aller voir. C'est,
Dans le côté lunaire, décalé, mais...
Ah, totalement lunaire. Et dans Sizing donc plusieurs récompenses. Emmy Award pour Sidewell, La Blonde Contre-Attaque, La Revanche d'une Blonde. Bon, c'est pas, peut-être pas les meilleurs ceux-là, je suis pas... Ouais. Mais bon, on aime, c'est pas le même genre, c'est pas le même genre. Mais bon, allez, on résume rapidement ce qu'a fait Waltz, parce qu'on pourra pas faire le tour.
Ouais.
Inglourious Basterds, c'est fait, Green Hornet, c'est fait, De l'eau pour les éléphants, c'est formidable. À un moment, il campe le cardinal de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires en 3D de George W.
C'est plutôt Les Trois Moustiquaires, là, on va dire.
Ouais, c'est ça, de Paul W.S. Anderson, projeté en 3D pour mieux étaler son absence totale de relief. Ouais. Bref, un pour tous et tous pour rien. Mais allez voir.
Mais...
Franchement, allez voir. Carnage de Polanski, Django Unchained. Des voix pour la bataille du royaume secret, le théorème 0, Opération Muppet, où il joue un agent d'Interpol, Big Eyes, comment tuer son boss. Il a joué évidemment Spectre.
Oui,
et
dans
il avait
007.
Signé un contrat. Il avait signé un contrat pour jouer si c'était de nouveau Daniel Craig.
Ouais.
Il jouera qu'un film parce que il finira sur la mort. Je sais même plus. Dites donc, mon cher Yves, on en a parlé, je ne le sais plus.
Ah, mais c'est pas grave.
C'est Mourir peut attendre. Oui, voilà, l'excellent Mourir peut attendre. Il jouera aussi Pinocchio de Guillermo del Toro, La Porte Magique. Dracula de Besson. Alors, ça, j'ai pas été voir.
Là,
et il finira sur Frankenstein de Guillermo del Toro.
Ouais. Voilà. Et on pourrait faire une deuxième heure sans problème pour présenter les autres.
Grosso merdo, on a fait le tour de sa carrière sur les trucs les plus emblématiques et les plus intéressants.
Mais malheureusement, là, on est vraiment en fin d'émission. Voilà. Donc, on va quand même, quand je disais qu'il a commencé à 50 ans, rappeler qu'il est né en 56. C'est pour ça. Et donc, on l'a connu à partir de 2009. Il avait 53 ans.
C'est ça.
On va dire un bel âge pour certains acteurs qui ont déjà une belle carrière. Il en avait déjà une et c'est là qu'il a explosé.
Il en a découvert une deuxième et il a gardé des contacts. Et d'ailleurs, il passe sa vie, comme je le disais, entre Berlin et Londres en étant citoyen américain.
Malheureusement,
on en a fini, mon cher Yves.
On est en train d'arriver en fin de l'émission.
Voilà. La musique nous le dit.
Ouais, on va vous dire merci de votre écoute pour ceux qui étaient sur l'antenne, puisque donc pas de Facebook.
Oui.
On se retrouve bientôt, le deuxième vendredi du mois, le dimanche suivant à 15h, et plaisir de vous retrouver en rediffusion, podcast et compagnie.
Et mon cher Yves, on finit petitement sur la pointe des pieds avec cette magnifique musique de Downsizing, A Little Change in the Weather.
Et on vous dit au revoir.
À bientôt. Salut.